Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, le club de la presse de Radio Orient, animé par Loïc Barrière.
Radio Orient est comme chaque semaine à l'Institut du Monde Arabe et ce soir nous recevons Jean Daniel, fondateur et directeur du Nouvel Observateur, journaliste et écrivain. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour vous interroger, Luc de Barrocher du Figaro et Henri Vernet du Parisien. Jean Daniel, vous publiez aujourd'hui un volumineux recueil des chroniques que vous avez consacré au conflit israélo-arabe. Israël, les Arabes, la Palestine, chronique 1956-2008 aux éditions Galade. Un livre, il faut le souligné, préfacé par deux intellectuels, deux historiens, Eli Barnavi, qui est israélien, et Elias Sambar, qui est palestinien. C'est donc plus de 50 ans d'histoire que vous nous donnez à lire, Jean Daniel. Alors, ma première question, ce serait si les Français ont changé de regard sur ce conflit depuis que vous avez commencé à écrire sur la question israélo-arabe.
D'abord, je voudrais vous dire que moi, je n'ai pas changé. C'est le plus curieux, à se relire de cette manière. Et vous savez combien ça peut être pénible pour un chroniqueur, éditorialiste. Nous faisons souvent dans la sentence et dans le catégorique. J'ai relu ça avec énormément d'appréhension. C'est vrai que les événements bougent peu et le regard qu'on a sur eux est quasi immobile. Alors le regard des Français, je ne peux pas en juger, sauf à la condition que vous me jugiez capable, moi, d'avoir exprimé les Français, ce qui n'est pas le cas. Je ne suis pas représentatif de tous mes confrères, par exemple, ici présents, pendant ce temps-là. Ce qu'il y a de remarquable, si vous voulez, c'est la façon quasi répétitive, redondante, harcelante avec laquelle le cheminement se fait, c'est-à-dire qu'il y a chaque fois une petite agression en gros palestinienne ou au départ arabe, il y a une énorme répression israélienne, il y a au Serbe, et les deux se suscitent dans les rangs de chacun des réactions extrêmement mélangées et qui vont de la désapprobation à l'exaltation. Ça, on le retrouve quasiment depuis 50 ans à chaque moment. Et surtout, quand il y a des espérances de paix. Alors, naturellement, le moindre espoir de paix, ça vous... Il faut avoir les 50 années dans l'objet même pour s'en rendre compte. Mais vous avez un espoir de paix, et aussitôt, vous avez, et on ne sait jamais d'où ça vient, les deux radicalismes qui s'exercent, qui s'influencent, et qui, plus grave, fait changer de position à toute une population.
Mais j'en reviens à cette question sur le regard des Français. Il semble qu'il y a 40 ans, 50 ans, on avait une attitude plus ouverte vis-à-vis d'Israël que des Palestiniens. Aujourd'hui, on sait que les Palestiniens méritent un État. Est-ce que c'était ce que les intellectuels français disaient au début du conflit israélo-palestinien ?
Alors, sur ce plan, on n'a pas idée, et je ne me souvenais même pas, à quel point l'israélophilie, l'israélomanie a imprégné les milieux intellectuels français les plus divers.
Par exemple,
j'ai retrouvé des entretiens personnels, soit sous forme de notes, puisque j'ai pas, même là-dedans, je n'ai pas tout publié. Bon, naturellement, les grands étaient pro-israéliens. Claudel a été une sorte de guide en donnant une injonction après la Shoah. Juifs, vous devez savoir que vous devez réoccuper toute la terre promise. Sinon, vous ne serez pas digne du sacrifice que vous avez fait. Valéry, qui lui ne prenait jamais position pour une attitude politique. Naturellement, Camus et Sartre. Il n'y avait qu'un seul Palestinien qui a préparé son retour, ça a été Jean Genet. Si vous mettez la parenthèse Jean Genet, vous avez, alors naturellement, les grands intellectuels juifs, énormes, admirables, comme Kössler, analyse d'un miracle. Le miracle, c'était la résurrection de la langue. Kössler, Romain Gary, très engagé. Bref, il y a eu une attitude, et alors, à l'école militaire, on enseignait la façon que les Israéliens avaient de se battre, ce qui a suscité d'ailleurs la réaction de Gaulle. En tout cas, cette période-là, c'est très net. Contrairement à toute une propagande américaine qui a eu lieu, encore ces dernières années, sur la continuité d'une sorte d'américano- et israélophobie, il y a eu une période totalement pro-israélienne en France.
Et c'est, excusez-moi, je vais laisser la parole à Henri Vernet. Quelle a été la cassure, justement? Comment la prise de conscience a-t-elle eu lieu?
Elle est évidente. C'est la guerre des six jours. La guerre des six jours et la réaction gaullienne à cette guerre des six jours, qui était très importante. Quand De Gaulle arrive, il va confier qu'il dit, mais on leur a tout donné, et en particulier le nucléaire et les avions qui devaient faire gagner les six jours, les fameux MiG. À ce moment-là, ce syncrétisme dont je vous parlais tout à l'heure, cette communion avec Israël à propos des intellectuels, elle était vraie aussi pour tous les pourvoyeurs d'armes. Donc l'engagement était énorme. La rupture s'est faite à ce moment-là. Et évidemment, tout ce qui peut avoir représenté d'abord la discipline militaire, le décrochage, l'obligation de se retourner vers les États-Unis, et ensuite alors une politique arabe qui commence vraiment, ce qu'on va appeler la politique arabe de la France, ça commence à ce moment-là, c'est-à-dire une politique anti-israélienne.
Henri Vernet.
Non, mais en fait, c'était ça la question. C'était, vous parliez des intellectuels, mais donc cette sympathie des politiques, de la classe politique française sous la 4e République, et qui donc a stoppé net, comme vous venez de le rappeler, avec le général de Gaulle. Mais justement, cette politique arabe de la France, aujourd'hui, avec 40 ou bientôt même 50 ans de recul, quels en sont les fondements? Est-ce que ce sont des raisons, disons, dominées par l'idéologie? Est-ce que c'est la poursuite d'intérêts bien compris? Qu'est-ce qui domine dans cette politique arabe qui a duré, disons, jusqu'à Jacques Chirac?
La politique arabe de la France, elle a été très différente avant la guerre d'Algérie et après. Il faut dire que rien n'était plus pro-israélien, y compris dans les rangs gaullistes, que les Français. On soupçonnait, par exemple, les Égyptiens de tout commander dans les initiatives du FLN, et dans le refus qui exaspérait le général de Gaulle. Qui exaspère le refus, en particulier de Ben Bella, qui personnifiait ce refus. J'ai eu des rapports là-dessus, personnels, je veux dire. Et de ce point de vue-là, quand le général de Gaulle dit à Ben Gurion, notre allié, notre ami, il est en train d'essayer de détruire ce lien qu'il soupçonne, qu'il croit plus profondément, d'ailleurs, qu'il ne sera vrai. Le FLN algérien et l'Égypte, et à ce moment-là, vous avez une partie. À partir du moment où les Israéliens n'obéissent pas à De Gaulle, il le prend comme ça. Ils ne m'ont pas suivi. Je leur ai donné un conseil. Il va dire même à Perfit, ça m'arrive peu souvent, mais j'aurais pris un engagement. L'engagement auquel les Israéliens ne croyaient nullement, c'était qu'au cas où il y aurait difficulté, la France s'engagerait militairement. Donc, lui, de Gaulle, a l'impression, je crois sincère, personnellement, quelles que soient les interprétations, qu'il fait à Israël un cadeau particulier, un don particulier, un engagement solennel. Et il n'est pas suivi. Et souvent, ça va être comme ça. Ben Bella ne va pas le suivre sur l'indépendance, personne ne va le suivre. Depuis le début du retour, le général va penser que parce qu'il est lui, et que le monde entier a confiance en sa parole, qu'il s'agisse des Arabes, des Israéliens ou de n'importe qui, on doit avoir confiance en lui. Et il va avoir des déconvenus.
Luc de Barrochet.
Pour revenir à la guerre des six jours, j'ai été frappé que vous écrivez très rapidement dans vos éditoriaux, dès 68 ou 69, que seul un État palestinien peut apporter la paix à Israël. Aujourd'hui, avec 40 ans de décalage et toujours pas d'État palestinien, qu'est-ce que vous pensez peut encore aujourd'hui apporter la paix dans cette région. Et bon, je pense qu'il faut essayer d'analyser un peu pourquoi il n'y a toujours pas d'État palestinien.
Pourquoi ?
Pourquoi il n'y a toujours pas aujourd'hui d'État palestinien et quelles sont les raisons qui font qu'on a échoué jusqu'à présent à régler cette question ? Et comment voyez-vous une solution encore possible là-bas ?
À votre première question, quand j'écris à propos de la guerre des six jours, nous provoquons une véritable crise. Pas parmi nous, en partie parmi nous, puisqu'un administrateur qui était un grand financier du journal s'en va, démissionne, parce que c'était un ancien officier, un Français qui avait été officier israélien, et d'autre part, à cause de deux titres que nous avions mis, l'un c'était « Faut-il détruire Israël ?» et l'autre « Condamné à l'agression ». « Faut-il détruire Israël ?» nous répondions non à la fin, mais ça faisait quand même des affiches. Et condamné à l'agression, c'est quelque chose que j'écrirai encore. Il y a 50 ans, je l'écrivais, les Israéliens sont condamnés à l'agression, c'est ça leur malédiction. Sur la réponse quant à une évaluation des chances de paix, avant de vous le dire, je vous dirais que nous avons été les premiers, avec, je crois, témoignage chrétien, à préconiser les deux États. C'est-à-dire les deux États, palestiniens, et à ce moment-là, c'était vraiment être très anti-israélien que de le dire. Ce qui a changé en gros, c'est, je le prends très gros, pour être court, c'est d'une part l'américanisation du conflit avec l'obligation pour les Israéliens de s'arrimer aux États-Unis à partir du moment où la France les lâchait. Cette américanisation a été très, très loin. J'ai écrit, mais aujourd'hui je peux confirmer, aujourd'hui nous voyons les auteurs américains les plus experts vous le dire, il y a maintenant une entité, une véritable entité israélo-américaine. C'est un phénomène planétaire. Quelquefois on se demande pourquoi ce petit État, avec si peu de gens, des deux départements français, c'est un phénomène planétaire, tout simplement. Vous avez en ce moment les intérêts israéliens et américains qui sont très souvent confondus, avec quelquefois de bonnes directions. Carter et Clinton ont pris de bonnes directions, mais avec des accords sur place, je veux dire en Israël, qui les engageaient ou qui ne les engageaient pas. Le coup de force a été le premier George Bush, avec Baker, qui donnait un ultimatum aux Israéliens. Ou bien vous nous promettez de ne pas vous engager dans la guerre d'Irak, ou bien on arrête les crédits. Et les crédits, c'est simplement l'oxygène, chaque année. Bon, ça c'était une histoire incroyablement lourde. Bon, vous avez, ça a changé. C'est que vous avez l'Amérique. Et en ce moment encore, tout passe par les États-Unis. Et en ce moment, quelqu'un nous disait, c'est Tony Blair qui invitait à déjeuner par Damien et disait... Le seul pays du monde où Bush reste encore un peu populaire, c'est Israël. Mais ça ne fait que souder cette entité dont je parle. La politique américaine, souvent et contrairement à ses propres intérêts, a aidé Israël du fait qu'elle réunissait non pas seulement ce qu'on appelle le lobby israélien, qui ne représente que la moitié des juifs américains, mais le lobby évangéliste, dont, fait nouveau, on a toujours sous-estimé la puissance et la richesse, et le nombre.
Qu'est-ce qu'ils veulent, ces évangélistes américains ?
Les évangélistes, c'est très clair, ils le disent tous les jours. Et puis ils le disent avec un certain cynisme. Ils disent, il est évident que nous luttons pour que tous les juifs retournent en Israël, et que les arabes s'en aillent, bien entendu. Si on les massacre, ce sera une bavure, ce sera collatéral. Mais ensuite, va arriver le grand événement, c'est que tout le monde deviendra chrétien, c'est que le Messie revient.
Mais vous êtes en train de nous dire que ce sont les évangélistes qui déterminent la politique étrangère des États-Unis ?
En partie, attention. C'était aussi faux de le dire pour le lobby israélien entièrement. Ce serait stupide de le dire pour les évangélistes. Mais ils comptent énormément dans l'entourage de Bush. Ils ont compté énormément dans la guerre d'Irak. Si vous voyez les gens influents autour de Bush dans la guerre d'Irak, vous avez trois membres du lobby du Likoud, Washingtonien, Likoud, le parti extrémiste, et vous avez quatre évangélistes, quand même, avec des noms connus. Et la seconde chose importante pour répondre à Luc de Barrochet, c'est qu'est arrivée d'un côté l'américanisation et de l'autre côté l'islamisation. Alors là, ça a changé toutes les données du problème. Quant à... Je ne veux pas continuer, mais d'ailleurs ça m'arrange, parce que pour ne pas dire quelles sont mes vues sur l'avenir et sur si je suis optimiste ou pas.
Henri Vernet, on va quand même vous poser la question tout à l'heure. Henri Vernet.
Non, moi je reviens à ce que vous disiez sur les évangélistes. En effet, c'est vrai que c'est une analyse qui est fréquente, hein, qui est la vôtre. Ça paraît quand même pas incroyable de penser à ce poids de l'irrationnel, incroyable, du mystique dans un conflit. On est au 21e siècle, on est à l'heure où la rationalité l'a remporté depuis très longtemps.
Mille fois d'accord.
Est-ce que ça ne montre pas à quel point ce conflit tient à des causes existentielles de part et d'autre et que finalement c'est ce qui le rend si compliqué à résoudre et que finalement vous disiez que vous ne voulez pas vous prononcer sur l'avenir, mais qu'on a peur de cet avenir. On se dit, c'est vrai qu'on est près de la paix, et en même temps, on n'en est jamais aussi loin.
Vous savez, ça dépend de ce que vous appelez existentiel, parce que votre première remarque, j'y adhère à 100%. Pourquoi ? Parce que c'est la terre où on a condamné les idoles. Il faut se souvenir de ça, quand même. Le christianisme issu du judaïsme, c'est Abraham qui quitte son père, qui avait le culte des idoles. Il les brise. C'est donc la terre où il ne devrait pas y avoir d'idolâtrie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sacré est l'idolâtrie. Le sacré, ce sont les pierres. Le sacré, c'est tout ce qui ritualise. C'est tout ce qui concrétise, incarne la mémoire. Donc, vous avez d'une part le chemin des 10 commandements. C'est le chemin vers la sainteté. Et le chemin de la Torah et du comportement des chrétiens, qui est le chemin du sacré. Le sacré s'oppose à la sainteté dans cette terre sainte. Et c'est d'autant plus tragique que c'est à Jérusalem qu'aurait dû avoir lieu le couronnement de l'élan pacifique. C'est pour ça que vous avez des gens comme Germaine Thion, Régis Debray aujourd'hui, je me suis fait l'écho de ça, comment s'appelait Louis Massignon, qui ont rêvé que l'ONU s'installe à Jérusalem. Ça aurait été logique dans la prédiction. Mais comme vous le disiez, s'il y a une terre où Dieu se moque des hommes, ne fait pas la paix entre eux, leur donne des conseils contradictoires, a l'air de jouir, ou alors a déserté sa propre terre. Vous savez, pendant la Shoah, il y avait, le génocide, je préfère employer le mot, il y avait beaucoup de juifs ou de grands chrétiens, comme Jacques Maritain, qui disaient, ne parlez pas de l'indifférence de Dieu. Il est absent, il s'est absenté. Eh bien, en ce moment, Dieu s'est absenté de la Terre Sainte.
Luc de Barrochet.
Et pourtant, vous nous parlez de vision apocalyptique des évangéliques, vous nous parlez de prégnance de la religion sur ce conflit, vous soulignez le côté ridicule de ces tout petits pays et petits peuples en nombre qui occupent toute la planète. Est-ce qu'une certaine rationalité est encore possible dans l'analyse du conflit ?
Le rationnel sur cette terre n'existe pas. Écoutez, tous les grands acteurs qui sont arrivés à conclure des accords provisoires de paix ont été des jusqu'au boutistes dans le radicalisme. Quand on pense à Shamir qui fait la conférence de Madrid, quand on pense à Sadat et qui était au fond qui a eu des contacts avec les nazis, quand on pense aux assassinats des Arabes en prière à Hébron par des radicalistes juifs, quand on pense à l'assassinat de Rabin. Est-ce que l'assassinat de Rabin peut être conçu comme quelque chose de rationnel et même de rationnellement religieux ? Tout est là-dedans tragique, au sens le plus grec du terme. Et quand on pense que ce pays veut s'obérimer à des traditions qui soient l'anti-hellénisme, alors qu'on retrouve les Atrides.
Tout à l'heure, Jean-Daniel, vous nous avez dit qu'il y a 40 ans, quand vous parliez de la création d'un État palestinien, c'était être perçu comme
une agression
et étant, vous étiez considéré comme un anti-israélien. Et aujourd'hui, le président Bush a fini par admettre qu'il fallait un État palestinien.
Moi, j'ai l'habitude, j'étais considéré comme un anti-algérien, puis au moment de l'indépendance, c'est arrivé, ça c'est autre chose. C'est une longue habitude d'être en marge des miens. Mais attention, il y a beaucoup de personnalités importantes. En France, c'est remarquable en ce moment, que Théo Klein, Stéphane Hessel, les présidents du Cercle Gastin-Corémieux, c'est plein de pour la paix en Palestine et pour les deux États. En Amérique, il y a maintenant, vous avez des grands journaux comme New York Review of Books, où tous les intellectuels se réunissent autour de ce thème. En Israël, les plus grands écrivains. Le premier étant Amos Oz, le second celui qui a perdu son fils dans cette guerre. Il y a une évolution considérable dans les esprits. Il n'y a pas de solitude de la paix. Il y a une fatalité de la guerre.
Comment vous l'expliquez ce cheminement ?
Le cheminement vers la paix ?
Vers la paix, c'est ce que vous dites à un moment donné dans votre livre, le jour où les Israéliens et les Palestiniens en auront assez de la mort et du malheur, c'est ce qui est en train d'arriver.
Écoutez, il y a un livre admirable qui est apparu, qui n'a pas fait de bruit. C'est quelqu'un de passionnant. C'est un des plus grands spécialistes du sanskrit. Nous en avons en France un qui s'appelle Charles Malamud. Et son associé, son collaborateur, son élève s'appelle David Shulman. Ce David Shulman a fait un livre qui a été traduit il y a quelques 6 mois ou 1 an en français, et où il nous dit quoi ? Ben qu'il se trouvait en Inde, en train d'étudier le sanskrit, donc. Et puis, il a vu les nouvelles, et puis il dit, je ne peux pas rester devant ces caractères-là, assis devant la chaise, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Il va en Israël, il voit qu'il ne peut rien faire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va sur la frontière entre les territoires occupés et Israël. Le mur n'existe pas encore. Mais, chaque jour, il y a une petite agression, il y a une grosse répression, et puis il y a des destructions des immeubles, des appartements, des gens. Et avec une équipe qui va être tout le temps à la fois palestinienne et israélienne, mais surtout israélienne, ils vont reconstruire chaque jour la maison qui sera détruite. Et quelquefois, c'est la même. Et le mythe de Sisyphe, vous savez, il le revive, il le réincarne. Parce qu'en ce moment, vous avez le plus dramatique, mais le plus admirable qui se passe sur cette terre. Alors à la rigueur, sa sainteté peut revenir par les actions des hommes, mais pas des gouvernements.
Le plus admirable, qu'est-ce qui se passe d'admirable sur cette terre ?
Ce que je viens de vous dire,
oui.
C'est que vous avez 25 associations de ce genre. C'est Barrett Boehm.
Qui prend la nationalité palestinienne.
Qui prend la nationalité palestinienne et qui l'explique d'une manière admirable. Je l'ai vu en face de moi, avec cette sorte de fermeté, de douceur, mais d'insistance pour dire qu'il ne comprend plus ses corrigionnaires, ses concitoyens.
Mais c'est utile, ça. Est-ce que, par exemple, les Palestiniens de Gaza le savent ? Est-ce que ceux de Ramallah le savent ? Ou est-ce qu'on n'est pas là, quand même, dans un cénacle d'intellectuels, d'artistes, qui, certes, sont concernés, mais pas forcément très efficaces en
termes de... Tout le monde sait tout, y compris que c'est vrai. Et c'est les gens dont je vous parle, maintenant, de Elie Barnavi à Lia Sorbar, puisque ce sont mes deux préfaciers, ils veulent une intervention extérieure. Ils disent qu'il n'y a pas de possibilité.
Luc de Barrochet.
Mais l'État palestinien aujourd'hui, en 2008, est-il encore possible quand on voit la coupure maintenant entre Gaza, gouverné par le Hamas, et la Cisjordanie gouvernée par l'autorité palestinienne, quand on voit le maillage de routes israéliennes qui coupe la Cisjordanie en autant de petits cantons, quand on voit l'importance des implantations juives en Cisjordanie, et quand on voit ces constructions, on n'imagine pas qu'elles puissent être démantelées un jour. Donc comment, où peut se construire cet État palestinien ?
Vous avez fait l'inventaire méticuleux et judicieux de toutes les raisons qu'il y a de se désespérer. Et en effet, avec ce que vous venez d'énumérer, on ne voit pas comment un État palestinien pourrait émerger. Qu'est-ce qui, la seule chose, c'est de se dire ce que les Israéliens ont dit souvent avec le plus de séduction du temps où ils étaient, si vous voulez, dans leur territoire, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, qu'ils étaient à l'intérieur du territoire légal. Et ils disaient, nous sommes, quand on leur parlait de démographie, par exemple, ils disaient, ben, nous sommes le pays des miracles. Je me souviens, moi, que j'avais rencontré quelqu'un de très admirable, qui s'appelait Moshe Charette, et je lui ai dit, mais à terme, étant donné la disproportion entre les deux populations, qu'est-ce que vous pensez, il arrivera d'autres, il arrivera d'autres. Et il leur est arrivé 1 million de Russes tout d'un coup, comme ça, au moment où ils désespéraient le plus. C'est au moment où Sharon faisait les raisonnements selon lesquels il fallait abandonner Gaza, que tout d'un coup, il leur arrive 1 million de Russes, dont en plus, au moins 200 000 ne sont pas juifs. Et non, on ne peut pas... encore une fois, la raison ne peut pas nous faire comprendre tout ce qui s'y passe, mais la raison aussi nous empêche de prévoir l'immobilité. Si tout est imprévisible, le meilleur aussi, pas seulement le pire.
Jean-Daniel, comment percevez-vous aujourd'hui le rôle du Hamas, qui contrôle donc la bande de Gaza, comme vient de le souligner Luc de Barrochet, le Hamas qui détient aussi un soldat, le soldat Gilad Shalit. Est-ce que le Hamas aujourd'hui est un acteur incontournable pour les Israéliens ?
Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Le Hamas existe. À cause de qui ? De qui il est le fruit ? Quelle est la part d'irresponsabilité ou de cynisme israélien ? Quelle est la part considérable et déterminante des Iraniens ? Comment s'est-il organisé ? Comment s'est-il construit ? Est-ce que Arafat n'a pas nourri cet excès en abandonnant un certain nombre de cartes qu'il avait, je ne sais, mais pour le moment, il existe bel et bien, et s'il donne suite à cette doctrine qui avait été celle de certains Palestiniens au départ. Le nom m'échappe, vous m'en excusez, il est encore en prison cet homme. Mais à un moment donné, il avait dit aux Palestiniens, à ses compatriotes palestiniens, il leur avait dit, la violence n'est pas une solution.
Barbouti.
Voilà. C'est très important, ça. S'ils font ça, depuis le début, c'est toujours la violence qui a provoqué le radicalisme israélien. Car la majorité des Israéliens ne pensent qu'à la sécurité.
Et justement, comment vous interprétez ce mouvement ?
Avec raison.
Ce mouvement qui est en train de naître dans la bande de Gaza, on a vu des manifestations récemment à la frontière israélienne.
Ben oui.
On a vu aussi ces Palestiniens qui sont allés en Égypte. Vous avez le sentiment qu'il y a un pacifisme palestinien qui
non,
est en train de naître ?
Non, il y a des gens qui veulent vivre, c'est tout. Ceux qui sont allés à Gaza savent que bon, c'est l'enfer.
Jean-Daniel, fondateur et directeur du Nouvel Observateur, est l'invité de Radio Orient, toujours à l'Institut du Monde Arabe. Je rappelle le titre de votre livre, Israël, les Arabes, la Palestine, chronique 1956-2008, aux éditions Galad. Pour vous interroger, Luc de Barrochet du Figaro et Henri Vernet du Parisien, une question d'Henri Vernet.
Mais puisque le Hamas existe, comme vous le rappelez, comme vous le soulignez, est-ce qu'il ne serait pas opportun de lui parler, de le prendre comme interlocuteur ? Il y a eu un temps où la France était précurseur, en tout cas au niveau des idées dans cette région, et certains d'ailleurs ont avancé cette idée de discuter avec le Hamas, et puis il y a eu changement de gouvernement et c'est pas allé plus loin. Est-ce que vous pensez qu'un tel geste devrait survenir aujourd'hui ?
Je l'ai préconisé, mais maintenant les choses sont rendues encore plus difficiles. Parce qu'il y a tout de même quelque chose qui fait l'accord des esprits, quels qu'ils soient, et en particulier des Occidentaux et des Européens. Même quand on est pro-palestinien, personne de responsable et d'actif ne veut la disparition d'Israël. Ce serait, pour les gens qui ont créé toutes les conditions de la Shoah, ce serait une sorte de culpabilité incroyable. Personne n'en veut. Donc le phénomène particulier qui est arrivé, c'est le président iranien. Alors tout d'un coup, maintenant, il faut entendre sans sourciller, simplement évoquer la suppression d'un État. Et en ce moment, ça rend belle la partie des radicaux israéliens, et d'ailleurs français. Le ministre des Affaires étrangères et le président de la République disent à juste titre qu'ils ne veulent pas traiter avec quelqu'un.
Mais les radicaux, vous disiez, pour vous, Kouchner et Sarkozy sont radicaux
non,
sur la question.
Non, ce n'est pas la question, mais disons qu'ils ont le devoir, et ils ont été élus pour ça, de proclamer au moins une solidarité sécuritaire, existentielle, au sens de la survie. Ça, oui. Donc, traiter avec Hamas, oui. Obtenir tout de même un certain nombre de garanties et de conditions, c'est à réunir. C'est pour ça, encore une fois, qu'il ne peut pas y avoir d'autre solution que l'intervention internationale sur place.
Sous quelle forme, cette intervention ?
Si je vous disais des choses précises, je ferais preuve d'incompétence et un peu de sottise. Alors, non, je ne sais
pas. Vous avez bien votre idée.
Dans ma vie, j'ai
assisté
à beaucoup d'interventions. Alors, elles sont très différentes les unes des autres. Comme j'ai eu une longue carrière, j'en ai vu. Non, là, je ne vois pas comment. Par exemple, il y a un exemple qui est trop facile. Est-ce qu'il faut faire comme pour le Kosovo ? Ben non. Ben voilà, vous voyez, le Kosovo nous embarrasse en termes.
Il y a un
terrible.
Débat actuellement en Israël sur une intervention extérieure. Est-ce que vous sentez que les Israéliens sont prêts à accepter cette intervention extérieure ?
Eli Barnavi, qui lui a plus de compétences pour moi pour en juger, pense qu'il y a une partie de l'armée et des services de renseignement qui serait favorable en ce moment à une intervention. Oui. Intervention, ça veut dire tout simplement un corps expéditionnaire. C'est une chose extrêmement grave, d'abord parce que vous avez des Américaines qui ne veulent pas qu'on leur enlève leur rôle, et qu'ils ont l'impression, eux, de gouverner encore. Qu'est-ce que ça va être avec le nouveau président américain ? Ça, c'est autre chose.
Luc de Barrocher.
Et quelle est la principale vulnérabilité d'Israël à vos yeux aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore la question palestinienne ? Ou est-ce que c'est plutôt la menace nucléaire iranienne ? Ou est-ce que c'est finalement la cohésion nationale israélienne ?
Cohésion nationale.
Et pourquoi ?
Désintégration à la soviétique. Ils sont les plus forts, ils ont tout. Comme les Soviétiques avaient tout eu. Et, parce que c'est une société qui, quand même, se cherche. Vous savez, mon premier voyage en Israël, j'avais été frappé par deux choses. Et je comprenais comment on pouvait construire une patrie. J'avais admiré les kibbutzim, le dévouement de la jeunesse, l'enthousiasme de la jeunesse et les gens de l'armée. J'étais entouré de jeunes, gens et de jeunes filles militaires, israéliens, israéliennes, admirable, le langage, la limite, pas belliqueux, la dévotion à l'égard de l'État, l'engagement avec l'idéal, le respect du voisin. Il y avait tout dans ce pays. Ça se désintègre tous les jours. Parce qu'au départ, c'était une grande aventure. Elle avait une dimension néocoloniale, puisqu'elle entraînait la dépossession des Palestiniens. Mais c'était une grande aventure qui aurait pu, avant 67, s'en sortir. Aujourd'hui, je crains beaucoup, parce que le nucléaire, c'est quoi ? Pourquoi voulez-vous qu'ils soient menacés par le nucléaire ? Ils en ont, et puis qui va le chercher ? La démographie, c'est possible, je ne sais pas, mais c'est surtout la cohésion nationale. Ça, c'est extrêmement grave.
Henri Vernet.
Et vous voulez dire que c'est une société qui est passée à autre chose ? Que par exemple, les jeunes Israéliens sont plus intéressés par la consommation, par ce que vous disiez en termes d'américanisation, c'est aussi le fait d'être plus dans une quête matérielle, de monter des affaires, de se lancer dans le business, plus peut-être que de développer, de faire vivre une nation. C'est ça que vous craignez un petit peu pour...
Ça peut n'être pas aussi matérialiste, mais un jeune soldat israélien qui va... ou une jeune fille qui va perdre. Avant, il disait je m'engage 3 ans pour être formé militairement et patriotiquement dans le destin d'Israël. Maintenant, il dit je m'engage 3 ans pour faire une guerre dont je ne sais pas ce qu'elle va nous rapporter, qui va probablement être injuste et qui n'augmente pas la sécurité. C'est une question fondamentale que se pose un jeune homme. Et vous n'avez jamais autant que maintenant des dispenses. Avant, être dispensé
C'était honteux.
C'était trahir, c'était déserter, c'était, il y avait un sentiment.
Luc de Barrochet.
Quand vous voyez, là, vous parlez d'une solidarité nécessaire avec l'État d'Israël, vous l'avez écrit dans vos éditoriaux. Est-ce que la façon dont le président français Nicolas Sarkozy exprime aujourd'hui cette solidarité, qu'il a voulu plus emphatique, qu'il a voulu se démarquer de son prédécesseur, de ses prédécesseurs sur cette question-là, est-ce que vous constatez, vous, un changement dans la politique de la France au Proche-Orient depuis quelques mois? Et comment vous jugez la politique arabe de Nicolas Sarkozy?
L'effet le plus évident, c'est qu'aux États-Unis et en Israël, en tout cas jusqu'à ces dernières semaines, le président Sarkozy était pour la première fois très populaire. De ce point de vue-là, ça a changé. Les liens entre la France et Israël ont totalement changé. D'ailleurs, sur des plans qu'il faut encourager culturellement, ça n'a jamais été mieux. Il y a des traductions. Un phénomène comme ça, moi je suis invité à présenter un livre traduit en hébreu, ça n'aurait pas eu lieu avant, ça. C'est autre chose.
Et on invite Israël au Salon du Livre à Paris.
On invite au Salon du Livre, ça c'est plus dans la logique que ce que vous disiez. Mais ça, je ne crois pas que le président Chirac aurait été hostile à une invitation. Je ne sais pas, en tout cas. En quoi consiste le changement? Le changement a eu lieu pour des raisons de grandes stratégies présidentielles, et avec certainement une grande part de conviction personnelle, et qui se diminue au fur et à mesure que l'exercice du pouvoir intègre des réalités. Vous savez, moi je ne vais pas aussi loin que un certain Lorenz qui avait dit « la France est une puissance arabe et musulmane ». Enfin, dans un certain sens, du temps de l'Empire et ensuite après l'Empire, les responsabilités sont très grandes. Puis nous avons maintenant 5 millions de musulmans en France, 30 millions en Europe. Ça, c'est des choses, des réalités qui comptent. Quelle est la politique arabe de la France aujourd'hui? Alors là, c'est autre chose. Je vous réponds tout simplement, je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'elle n'est même pas orientée d'un côté ou de l'autre. Je crois qu'elle est au coup par coup. Et je crois que quand le président va dans un pays, ce qui l'intéresse, c'est d'emporter des succès économiques
et de vendre des centrales nucléaires.
Pardon ?
Et de vendre des centrales nucléaires ?
Oui, il a cette politique que moi, personnellement, je ne les approuve pas, d'ailleurs.
Ça ne vous inquiète pas ? Vous n'y voyez pas de risque de dissémination nucléaire ? Parce qu'on sait qu'entre le nucléaire civil et le militaire, les frontières ne sont jamais totalement étanches.
Moi, je n'y vois pas de risque dans la mesure où l'expérience nous conduit à savoir que si nous ne le faisons pas, les autres le font. Sinon, votre raisonnement, je l'adopterai plus loin. Quand vous pensez que nous prenons le deuil quand les Marocains traitent avec les Américains, et ça pourquoi? Pour des âmes destinées à tuer l'humanité. Si on va jusqu'au fond de votre logique, il faudrait finir avec les hommes. Là, c'est cette compétition, c'était pas comme ça avant. Je vous signale. Avant, dans ma génération, il y a très, très, très longtemps, on parlait des marchands de canons. Les marchands de canons, c'est une période d'audit. Maintenant, ils sont propriétaires de journaux.
Luc de Barrochet.
Cette union pour la Méditerranée, ou union méditerranéenne, qui est projetée par Nicolas Sarkozy, il entend faire une des marques de sa présidence de l'Union européenne cette année. Qu'est-ce que vous en attendez?
C'est une très, très grande idée. Et comme les grandes idées, il faut les prendre délicatement. Moi, j'étais passionné par ça. J'ai même fait parler, grâce à Jacques Delors, j'ai fait partie de la première commission sur la conférence de Barcelone. C'est une magnifique idée qui a pour revers, c'est que les Méditerranéens de l'autre rive ne sont pas unis. Et ils commencent un peu, mais enfin. Donc, l'idée qu'il puisse y avoir, et ils sont venus très, très lentement à ça, des accords particuliers entre tous les riverains de la Méditerranée pour construire des barrages, dessaler l'eau, avoir 1000, c'est une très grande idée. Il ne faut pas qu'elle soit trop culturelle, parce que là, ça ne réussit pas. Tout de suite, ça fait colonialiste. Mais il ne faut pas non plus que ça détruise l'Europe. Je ne vois pas pourquoi on s'y prendrait de manière à ce que Madame Merkel nous injurie tous les jours.
Mais parce que l'Allemagne n'est pas riveraine de la Méditerranée, justement. Oui. Et donc, il y a un conflit d'intérêts entre la France et l'Allemagne.
Elle commence à le réaliser. Mais du conflit d'intérêts, qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Pourquoi on n'aurait pas fait l'Europe ? Si on avait pensé, au conflit d'intérêts. Nous avons tous des intérêts divergents. Non, on pouvait s'y prendre autrement. C'est-à-dire que pour tel projet de contrat, on pouvait y associer l'Allemagne. Et quand je dis on pouvait, je ne parle pas d'imparfait, parce que quand même, tout n'est pas désespéré, mais c'est une grande idée.
Mais c'est une grande idée, l'Union méditerranéenne, mais est-ce
non,
que ça
pas
doit...
Non, pas l'Union méditerranéenne, c'est moi j'y crois pas.
Mais est-ce que ça doit être une zone économique ou est-ce que les peuples peuvent y être associés
il faut faire,
avec notamment la libre circulation.
Il faut faire comme Jean Monnet, il faut commencer par le charbonnier. Il faut faire, faire des poules. Et puis après on voit ce que ça donne.
Mais c'est quoi le charbon et acier dans la région ? Alors c'est des projets par exemple sur l'environnement,
C'est très important. Le problème de l'eau est très important toute la Méditerranée. Mm-hmm. Il peut l'être. Et puis surtout, il peut réaliser l'unité des pays avec lesquels on veut faire une union. C'est assez curieux parce que pour le moment, vous savez que les trois pays du Maghreb, par exemple, ont beaucoup plus de rapports avec la France.
Bien sûr.
Sur tous les plans.
Algérie et Maroc ont même des frontières fermées.
Hein ?
Algérie et Maroc ont même des frontières fermées.
Oui. Et quand on voit que le Maroc ne s'approvisionne pas en Algérie pour les hydrocarbures. Mmh. Je crois qu'il s'approvisionne en Californie, ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, là, j'ai une lacune.
J'en reviens au conflit israélo-palestinien en rappelant que votre livre a été préfacé par deux intellectuels palestiniens et israéliens.
C'est sa caractéristique principale.
Comment avez-vous fait pour être resté ami à la fois avec les frères ennemis pendant si longtemps, pendant ces 50 longues années ?
Je pourrais vous répondre très facilement, c'est que les deux qu'on vient de citer, ils sont amis. Alors, je n'arrive pas à les réunir. Et y a quelqu'un qui aurait été encore plus ami, c'est Leïla Chaïd.
Je voulais dire, vous êtes ami des Israéliens et des Palestiniens. Enfin, vous êtes resté ami des deux peuples.
Oui, mais je ne suis pas ami du Likoud et je ne suis pas ami du Hamas. Je suis hostile aux deux. J'ai pas nationalisé mes amitiés.
Mais vous les mettez sur le même plan ?
Quoi ?
Le Likoud et le Hamas ? C'est la même chose pour vous ? C'est l'extrémisme ?
Oh, ça vous m'embarrasse. Oui, à certains moments, oui. Oui, je crois que le Likoud peut arriver peut-être à se rallier plus vite que le Hamas à une solution que les Américains imposeraient. Vous voyez toutes les précautions que je prends. Et encore, je ne sais pas, il viendra un moment où le Hamas lui-même, peut-être, je ne sais pas, ça va dépendre de nos rapports. Pour le Hamas et pour le Hezbollah, nous sommes entre les mains de l'Iran, là.
Henri Vernet.
Qu'est-ce que vous pensez du retentissement de ce conflit dans la société française ? Vous l'avez vu évoluer, d'ailleurs. C'était frappant, notamment à partir de 2000-2002, la deuxième intifada, où on a vu, et puis après, entre-temps, le 11 septembre, qui n'est pas exactement dans cette région, mais enfin, on voit qu'il y a un retentissement dans la société française de tout ce qui se passe dans cette région qui est...
Je ne vois pas comment ça pourrait ne pas exister. Supposez que vous soyez arabe ou musulman, ou allié d'arabes ou de musulmans, ou allié de juifs et d'israéliens, et que vous lisiez, vous entendiez. Je me souviens, j'étais en voyage dans le centre de la France, et ma femme conduisait la voiture, on a mis la radio, ça a été une succession de communiqués, et j'ai dit à ma femme, moi, je serai plus jeune, musulman ou israélien, je sortirai, je tirerai sur tout le monde. On n'a plus conscience, on n'écoute pas. On entend, on n'écoute plus. Vous ne savez pas ce que sont nos communiqués à nous autres, les journalistes, sur les radios, continuellement, toutes les heures. Deux Israéliens qui tombent, 25 qui sont en répression, et continuellement. Et puis on vous souligne, et c'est les enfants, ils ont tel âge, tout le temps, je ne le vois pas. Je trouve remarquable qu'on soit encore à ce degré de quasi-indifférence. il y a de quoi révolter tout le monde. Et puis c'est vrai que la froideur des communiqués, quelquefois, rend injuste. Vous avez vu comme je suis sévère sur Israël, mais c'est un fait que ce jour-là, par exemple, je n'entendais parler que des morts palestiniens. Et vous savez le lien que je peux avoir. Mais pas des morts israéliens, et ça me révoltait. Je comprenais donc certaines réactions de leur part. Car c'est vrai que dans le chemin, et avec le ton classique, moi je connais, nous sommes de la confrérie, si vous voulez. Il est neutre, ce ton, mais les gens le croient partisan. Et il dit, encore deux enfants palestiniens tués, là, sans dire comment ça a eu lieu. Et moi j'entends ça, je me dis, mais ça doit les rendre fous, ces gens-là. Pour le reste, il faut dire qu'il se passe quelque chose de grave. J'espère que ça n'atteindra pas, parce qu'il y a beaucoup de... Ici, il y a une chose de grave, positive, une chose de magnifique, négative, le contraire, si vous voulez. La chose négative, c'est qu'il y a maintenant dans le monde arabe un antisémitisme évident. Il suffit de voyager. Si vous voyagez dans les pays arabes, vous avez qu'à lire, tout ça. Bon, c'est pas un anti-israélisme, c'est pas un antisionisme, c'est un antisémitisme maintenant. Protocole des sages de Sion, les caricatures, tout ça, ça existe partout. Et puis vous avez, dans les autres, en Occident, vous avez quelquefois une islamophobie qui pose des problèmes et qui est énorme.
On a vu ça notamment au Danemark, aux Pays-Bas.
Partout, en Hollande. Pour moi, le grand sujet de préoccupation, quand tout le monde va voir, ça se circonscrit à la Hollande, pas le Danemark ou ailleurs. Parce que la Hollande, ça a été, depuis Spinoza, le pays de toutes les sectes chrétiennes du monde qui s'entendaient parfaitement, et le pays qui a accueilli les Juifs. En Hollande, ce sont les Juifs qui ont condamné Spinoza, pas les Néerlandais. Bon, mais la chose en France qui est un facteur très positif, c'est le nombre d'intellectuels qui sont en train de refonder l'islam.
Oui, mais vous parlez encore des intellectuels, mais vous citiez l'antisémitisme qui se développe dans les pays arabes, mais en France aussi, on l'a vu. Je parlais tout à l'heure de 2002. 2002, c'était, rappelez-vous, c'était cette grande époque où on a vu des attentats vraiment importants contre des synagogues, contre des juifs. C'était un climat incroyable.
C'était un climat extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant.
Et maintenant, d'autant on en est à l'abri, vous pensez, on est revenu...
D'autant plus inquiétant que dans l'antisémitisme, quand il arrive, on fait tout de suite des rapprochements. Comme l'antisémitisme, à l'origine, a débouché sur la tragédie, je parle de la Shoah, alors chaque fois qu'il y a un acte antisémite qui ne relève pas de ce processus, on le rapproche quand même. Et pour tout vous dire, même à ce moment-là, où il fallait s'alerter, où le devoir était de s'alerter, où je me suis alerté, mais au fond de moi-même, je me disais, c'est quand même pas tout à fait un pays antisémite, où la femme la plus populaire, c'est Simone Veil, où les quatre candidats à la présidence de la République, c'était dans le Parti Socialiste, c'était des hommes qui avaient une cote de popularité formidable, où l'inventaire des prestiges, où les trois, où on a quand même deux prix Nobel juifs qui sont une autorité considérable. Enfin, on ne peut pas dire que la France, tout d'un coup, a eu une crise d'antisémitisme. Elle a eu, dans certains îlots, dans des foyers, situations venues de la difficulté de la cohabitation, surtout dans certains quartiers, où il y avait mixité, si vous voulez, il y a eu des drames alertants qu'il fallait prendre au sérieux, qui ont été pris, je crois, au sérieux, qu'il faut continuer d'être le plus vigilant que jamais.
Luc de Barrochet.
Et l'islamophobie, vous en parliez en Hollande et au Danemark, mais en France, est-ce que vous sentez aussi monter une mauvaise image de l'islam qui est véhiculée par certains et qui commence à gagner beaucoup de couches de la population ?
Pour être honnête, on me le dit, mais moi je ne la vois pas. Je ne la sens pas. Je ne la vois pas. Je ne la remarque pas. Je ne vois pas où elle se situerait. Je trouve que si vous entendez, par exemple, M. Schweitzer, vous savez, qui est maintenant au Monde et qui a dirigé ce centre...
– La Halde.
– Oui. Eh bien, il est plutôt optimiste sur la façon dont les chefs d'entreprise, en particulier, par exemple, ont mis un frein à la discrimination. Ça a été très lent, c'est très lent encore, mais je ne vois pas, ça n'arrive pas d'une hostilité. Moi, je redoute beaucoup plus des scènes comme celle des Africains sur les stades. Ça, c'est du racisme vrai, si vous voulez. Ça, c'est du racisme.
Luc de Barrochet.
Quel est votre regard sur la relation franco-algérienne aujourd'hui? Parce que vous étiez en Algérie avec le président Sarkozy. Le traité d'amitié que Jacques Chirac voulait signer avec le président Bouteflika a été enterré. Est-ce que c'était trop tôt de parler de réconciliation, d'amitié entre la France et l'Algérie?
J'ai toujours été hostile à ce projet. J'ai eu l'occasion, non pas d'être consulté, ce serait me hausser du col, mais enfin disons de m'entretenir avant que notre ambassadeur, c'est une proposition qui est née dans l'esprit de Colin de la Verdière. J'ai toujours été moi hostile à ce projet parce que ça contraint à la solennité des gens qui ont envie de faire les choses sans qu'on s'en aperçoive. Les gouvernements algériens ont envie de faire tous les traités, ils n'ont pas envie d'ici qu'on les scelle avec une sorte de solennité formelle qui ressemble à une sorte de pardon pour tout. Et puis, dans ce cas-là, c'était pain béni pour les Algériens que de se dire... Puisqu'on nous demande de faire une alliance, ben on va leur dire le prix. Et le prix, c'est pour un chef d'État algérien, c'est de montrer aux islamistes qu'on n'a rien oublié et de montrer qu'on ne se rallie pas au parti français. Vous savez qu'en Algérie, il y a le parti français. Le parti français, c'est le parti de tous les jeunes gens qui veulent venir ici. C'est le parti de tous les gens qui veulent apprendre le français là-bas. C'est le parti dont l'orientation est de moins en moins socialiste ou collectiviste. Et c'est le parti aussi des non-islamistes, de l'anti-islamisme. Non, j'ai jamais été partisan de ça. Et je trouve que, en plus, que ça ne sert à rien. Écoutez, la coopération, en ce moment, elle marche très bien. Nous sommes toujours les premiers fournisseurs, sauf pour les hydrocarbures. C'est les Américains. Je ne crois pas que nous soyons remplacés par la Chine parce qu'ils ont eu plusieurs échecs dans le bâtiment, qui sont assez pittoresques d'ailleurs. Quelques épidémies ont empêché les Chinois de faire des performances aussi extraordinaires que vous attendez. Moi, je ne trouve pas qu'il était opportun de demander une proclamation. Soyons amis. Moi, j'aime bien, d'ailleurs, d'un point de vue humain, je ne sais pas qui l'a dit, mais moi, je l'ai cité, presque en disant que c'était moi. Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amitié, il y a des preuves d'amitié.
C'est Jean Cocteau, je crois.
C'est Cocteau.
Une dernière question, Jean-Daniel. À qui destinez-vous ce livre qui reprend 50 ans de chroniques sur... la question israélo-arabe, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne
de me lire, bien sûr.
Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ce volumineux recueil de chroniques? J'essaye de vous faire parler un peu de vous, finalement, vous nous parlez des autres.
Ben, d'abord, l'obstination d'un homme à parler d'un sujet, mais j'en ai 4 ou 5 comme ça, j'aurais pu réunir. J'ai fait des éditoriaux sur tous les sujets. Pas tellement. Il y a un Américain qui fait quelque chose sur moi, parce que j'ai eu un livre traduit aux États-Unis, et donc ils font un travail sur moi dans une revue. Et il m'a dit, après m'avoir lu, qu'au fond, j'étais pas tellement un journaliste, puisque j'avais 4 ou 5 thèmes qui revenaient de manière obsessionnelle. Alors c'était à la fois... c'est pas élogieux chez un Américain, ça allait davantage pour un Français, si vous voulez. Mais... il y a évidemment l'idée qu'il y a une fidélité à moi-même totale. Ça, je ne sais pas si c'est présomptueux de le dire. C'est vrai que j'assume tout ce que j'ai écrit. Et très souvent, dans d'autres domaines, comme je crois tous mes confrères, à certains moments, se relire, c'est une épreuve très difficile. J'ai pas encore relu tout, mais pour le moment, je suis pas encore gêné par ce que j'ai écrit. J'ai pas honte, quoi.
Merci beaucoup Jean-Daniel d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre « Israël, les Arabes, la Palestine, chronique 1956-2008 aux éditions Galade », un ouvrage préfacé par Élie Barnavi et Elias Sambar. Merci également à Luc de Barrochet du Figaro et Henri Vernet du Parisien. Cette émission a été préparée par Dila Tebi et réalisée par Samer Elage. Bonsoir.
C'était Pluriel, le club de la presse de Radio Orient. Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.